בוקר טוב. Alors normalement vous devez répondre Boker Or. Alors on va le refaire. Boker Tov. Ah, shalom. Je vous propose un texte du livre de la Genèse. Et le texte que je vous propose, un texte très connu, qui se trouve au chapitre 12. Genèse, chapitre 12. Et je vous propose la lecture des 8 premiers versets. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Ainsi, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Alors Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était alors âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent ainsi pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem. Là se trouvaient les chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et alors Abraham bâtit là un autel à l'Éternel, parce que c'est là que l'Éternel lui était apparu. Que le Seigneur bénisse pour nous la lecture de sa parole. Alors, vous le savez, je reviens d'Israël cette nuit et je ne pouvais pas lire un autre texte que celui-ci. On surnomme, je pense que vous le savez, Abraham, le père des croyants. Son histoire dans la Genèse raconte son cheminement vers une foi totale en Dieu. Depuis l'appel qu'Abraham reçoit à Ur en Chaldée, jusqu'au mont Moria, là où plus tard va être édifié le temple de Jérusalem, et là aujourd'hui sur lequel on peut encore voir, je l'ai vu hier, le dôme du rocher. Sur ce dôme, sur l'emplacement du temple, sur le mont Moria, Abraham, nous le savons, était prêt à sacrifier, offrir son fils Isaac. Ces récits ont, je le crois, valeur d'exemple et font de la figure d'Abraham une sorte de prototype du croyant, dont nous pouvons tirer des enseignements pour notre propre cheminement de foi. Alors l'appel de Dieu à Abraham commence avec une formule étonnante. Alors vous voyez que l'Éternel surprend toujours, parce que comme vous le savez, ça fait 30 ans que je suis pasteur, presque 35 ans même, et je n'avais pas encore découvert ce texte. En fait, je l'ai découvert quand j'ai lu ce texte au groupe sur le mont Moria. Et cet appel commence avec une formule étonnante. En hébreu, c'est « lek leka ». Lek leka, littéralement, qui veut dire va pour toi ou va vers toi. C'est étonnant. Va vers toi. Il y a eu effectivement de nombreuses interprétations de cette formule, plus ou moins psychanalytique. D'autres préfèrent y voir tout simplement une formule intensive, qu'on pourrait très bien traduire par « va quant à toi ». Qu'en est-il ? Alors je dis cela, ou on dit cela, parce qu'on retrouve la même formule au chapitre 22. Quand Dieu dira à Abraham d'aller offrir son fils Isaac en sacrifice. Au moment où, au premier abord, la promesse elle-même de Dieu semble pour le moins être remise en cause. Puisque Dieu lui dit « Je ferai de toi une grande nation », Abraham répond « Mais comment cela est possible? Je n'ai pas d'enfant. Sarah est stérile. » Or, Sarah a un fils, c'est le miracle. Et puis, c'est tout de suite l'incompréhension. Car Dieu lui dit « Va vers toi et offre-moi en sacrifice ton unique, ton fils. » Et donc, cette promesse semble être remise en cause. Comment Abraham pourrait-il être le père d'une grande nation s'il doit maintenant sacrifier son fils ? Forcément, la formule fait référence à l'appel initial d'Abraham. D'autant que la formule est extrêmement rare dans la Bible et qu'on ne la retrouve qu'une seule fois dans l'Ancien Testament. Ce qui fait donc du texte que nous sommes en train de lire, lek, leka, c'est un apax legomenon, pour ceux qui aiment la théologie. Et je sais qu'il y en a parmi nous, je ne cite personne, suivez mon regard. C'est un mot très rare, qu'on ne retrouve qu'une seule fois, ici même. Bref, lek, leka ne peut être perçu simplement comme une formule intensive. Sa rareté et l'usage de la formule, à deux moments cruciaux de la vie d'Abraham, nous invite forcément à aller plus loin. Il y a bien ici, dans ce texte, un appel à une mise en marche particulière. Un appel à la foi qu'on pourrait exprimer ainsi « Va sur ton propre chemin ». Ça s'accorde du reste avec la suite du récit ou du verset où il est question pour Abraham de quitter sa famille, de quitter son pays, bref, d'emprunter son propre chemin. Dieu adresse à Abraham un appel personnel qui le met en marche pour soi. Le chemin de foi ne peut être qu'un chemin propre à chacun. Parce que la foi n'est pas héritée. Quelqu'un m'a dit un jour, « Vous avez une sacrée chance, vous, monsieur le pasteur. » Et je lui ai répondu, « Pourquoi ?» Et il m'a répondu, « Parce que vous avez hérité de la foi de vos parents. » La foi n'est pas un héritage, parce que la foi n'est pas héritée. Même si elle peut naître dans un terreau plus ou moins favorable, elle est personnelle. Elle est toujours un chemin personnel que nul ne peut emprunter à notre place. Autrement dit, le verbe croire se conjugue toujours à la première personne. Même si ça peut être la première personne du singulier ou du pluriel. La foi, c'est toujours « je crois » et « nous croyons ». Ce n'est pas le « tu crois » ou plutôt « tu dois croire ». Ça, on va le laisser aux sectes, on verra mercredi. Tu dois croire. Ce n'est pas le « tu dois croire ». Parce que le « tu dois croire », c'est un ordre qui est un ordre d'inquisiteur. Un ordre légaliste qui veut dicter aux autres ce qu'ils doivent croire et comment ils doivent croire. Ce n'est pas plus le « il croit » ou pire « on croit ». Impersonnel, celui d'un discours distant sur la foi ou d'une analyse froide et abstraite. La foi, c'est toujours le « je crois » personnel, celui de ma vie de disciple de Jésus-Christ. C'est l'expression de ma relation avec Jésus-Christ. Elle fait partie intégrante de ma vie. Elle m'appartient. Elle est à moi. Elle fait partie de mon intimité. Elle fait partie de mon identité. Mais la foi, c'est aussi, et je l'ai dit tout à l'heure, le « nous croyons ». C'est le « nous croyons » communautaire. D'ailleurs, l'appel d'Abraham, s'il est personnel, on remarquera qu'il a aussi une dimension communautaire. Je ferai de toi une grande nation. Chacun son chemin. Oui. Parce qu'on ne peut pas marcher à ma place. Mais ce n'est pas non plus le chacun pour soi. Nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. Même si nous nous comportons souvent comme si nous étions seuls, nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. Nous le partageons aussi avec d'autres marcheurs. Une église est une communauté de marcheurs. Nous devons nous considérer les uns les autres comme des compagnons de route, des disciples en marche à la suite de Jésus-Christ. Abraham, pour répondre à l'appel de Dieu, a dû quitter son pays, sa famille, sa maison, son père. Il avait 75 ans. Ce n'était pas un petit jeune qui partait de chez papa-maman pour partir à l'aventure. L'appel à la foi reçu par Abraham l'oblige à changer de vie en quittant ce qui faisait sa vie, ses origines, sa culture, son pays, ses racines. J'en conclus donc une chose importante pour chacun de nous. Aller, c'est partir. Aller, c'est quitter. La foi, c'est un chemin de renoncement. La foi n'est jamais un chemin de confort. C'est un chemin de renoncement. Et c'est vrai au début de notre vie chrétienne, mais aussi tout au long de notre vie chrétienne. Si elle nous met en marche, la foi nous garde aussi toujours en mouvement. S'arrêter, s'installer, c'est se contenter de ses acquis. Et c'est déjà quitter le chemin. La foi, faut-il le rappeler, frères et sœurs, ce n'est et ce ne sera jamais un chemin de confort. Ou alors, c'est qu'on met notre foi en péril. Car la routine, la tiédeur, le confort sont des dangers pour notre foi, au moins autant que les épreuves, autant que les persécutions. Mais rapidement, le confort peut refaire surface, et il peut refaire surface de multiples façons. Le confort d'une vie chrétienne routinière, avec ses habitudes rassurantes, avec le cocon tiède d'une vie paisible en Église, la tranquillité d'un disciple qui avance pas trop à couvert, sans se mouiller. Pourquoi est-ce que je le ferais? Les autres le font mieux que moi. Ou alors, ça peut être, et c'est tout aussi dangereux, le confort aliénant d'un légalisme qui rythme sa vie par une liste d'interdits, par une liste d'obligations. Ça peut être le confort intellectuel d'un croyant qui croit qu'il a tout compris, qu'il n'a plus rien à apprendre et qui n'a donc plus besoin de se remettre en cause. Quelles sont les zones de confort dans notre vie chrétienne? Quelles sont les zones de confort dans notre vie chrétienne que nous devons quitter? Quand il part, Abraham sait ce qu'il quitte, mais il ne sait pas où il va. Et il n'y a rien de plus pire de ne pas savoir où on va. Est-ce que tu sais où tu vas? Est-ce que tu sais où ce que tu crois, ce que tu vis, va te mener? Car un jour, c'est sûr, tu y arriveras. Faut-il te rappeler ce texte ultra connu? Ce que sème un homme, il le retrouvera. Abraham, va, quitte ton pays et va maintenant dans le pays que je te montrerai. Abraham ne sait pas encore quel est ce pays, mais c'est là que s'exprime sa foi, la foi de la confiance. La foi de la confiance. Abraham doit faire confiance à Dieu quand il lui dit qu'il va lui montrer un pays. Il n'a pas de GPS, Abraham. Yvonne n'est pas en train de lui dire au deuxième rond-point, prenez la troisième à gauche, puis quittez la grande route, au feu rouge, prenez à droite. Il n'a pas de plan de route. Et comme il ne connaît pas encore M. Paul Kuhn, il n'a pas encore de carte routière. Si vous regardez le texte, vous apercevrez qu'Abraham ne sait même pas quel est le but de son voyage. Je te montrerai un pays, ce sera le tien, et je ferai de toi une grande nation. C'est en route, Mes amis, c'est en route que les choses vont se préciser. Tu veux que Dieu te montre quelque chose ? Tu attends que Dieu te parle ? Alors mets-toi en route. Parce que c'est en route que Abraham sait ce que Dieu va lui dire. Dieu va renouveler, Dieu va préciser sa promesse. Et il va le faire à plusieurs reprises. Et le voyage d'Abraham sera tout sauf une croisière paisible sur un long fleuve tranquille. La route sera émaillée d'épreuves, d'imprévus, de choix qui seront malheureux. Abraham mentira quand il verra Sarah, sa femme, qui est alors Miss Charan, qui va devenir Miss Israël. Elle est, nous dit le texte, d'une extrême beauté. Et Abraham n'a qu'une peur, c'est qu'on lui pique sa femme. Alors il dira, « Hé, dis que je suis ton frère, mais ne dis pas que tu es ma femme. » Ces choix seront des choix malheureux. Mais Abraham, le pauvre, nous rappelle que pour répondre à l'appel de Dieu, nul n'est besoin d'avoir tout compris. Quelqu'un m'a dit un jour, « Je me convertirai et tu auras la joie de me baptiser quand j'aurai tout compris. » Alors je lui ai serré la main et je lui ai dit, « À jamais. À jamais. » Parce que si tu attends de tout comprendre pour te mettre en marche, tu ne te mettras jamais en marche. Abraham l'a bien compris. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Il s'agit d'abord de choisir, de faire confiance à Dieu et de s'engager sur le chemin. Tu pars. Nous partons sur un chemin inconnu. Nous partons vers l'inconnu. Quelles que soient les choses qui nous arriveront, quels que soient les malheurs qui nous arriveront, nous savons que notre destinée est entre les mains de Dieu. Qu'il prendra soin de nous. Et si vous vous rappelez de ma prédication il y a 15 jours, nous tomberons certes, mais nous tomberons dans sa main et non pas en dehors de sa main. Nous allons donc répondre à l'appel de Dieu, que ce soit au début de notre vie chrétienne, pour certains, ou plus tard, pour d'autres. N'attendons pas d'avoir toutes les cartes en main pour partir. Parce qu'avec le Christ, rappelons-nous cette vérité. Le risque zéro n'existe pas, même dans la vie chrétienne. Dieu prend des risques. Il prend le risque de t'avoir choisi. C'est un risque qu'il prend. Dieu prend toujours des risques. Et si l'on attend là, assis sur notre chaise, même si c'est pour prier, je ne sais pas si je vous ai raconté cette histoire. Il y a longtemps que je ne vous ai pas raconté d'histoire. Alors je radote un peu, vous pardonnerez le vieillard que je suis. Pour ceux qui ne la connaissent pas, en tout cas, je veux vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une brave dame qui va à toutes les réunions de prière. Et à toutes les réunions de prière, elle dit, « Seigneur, tu vois là dans ma vie, il y a une toile d'araignée. Et il faut que tu l'enlèves, Seigneur. » Et tout le monde dit, « Oui, Seigneur, aide notre sœur, enlève cette toile d'araignée. » Et la semaine suivante, elle revient, elle dit, « Seigneur, tu vois, il y a encore une toile d'araignée. Enlève-la, je t'en supplie. » Et les gens disent, « Oui, Seigneur, enlève-la, aide notre sœur. » Et ça dure 3 mois. Au bout de 3 mois, le pasteur, il en a marre, il dit, « Seigneur, bousille l'araignée. Ça ira plus vite. » Alors je dis, « que si l'on attend assis sur une chaise, même si c'est pour prier, que tout soit clair, confirmé et reconfirmé avant de répondre, on risque bien de rester assis encore longtemps. C'est bien souvent lorsque nous nous sommes levés, mis en marche, que les projets de Dieu pour nous se précisent. Dieu ferme les portes. Seigneur, quelle est ta volonté ? Montre-moi ! Et Dieu ouvre les portes. Ça signifie aussi qu'on ne peut pas attendre. Qu'on ne peut pas attendre des nouveaux convertis ou de ceux qui sont en chemin vers Dieu, qu'ils aient dès le début une parfaite théologie orthodoxe. J'ai rencontré un jour un pasteur qui a sermonné une de ses paroissiennes parce qu'elle ne connaissait pas ce texte biblique qui était bien connu de tout le monde. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et il lui a dit, mais tu comprends pas ça, c'est marqué dans la Bible. Et elle lui a dit, mais ça fait qu'une semaine que je suis chrétienne. On ne peut pas attendre d'un nouveau converti qu'il ait une théologie appliquée. Il suffit de lire la suite de l'histoire d'Abraham pour se rendre compte qu'il était encore loin d'être le croyant parfait, d'être le croyant irréprochable. Il me reste 4 minutes pour conclure. Va, quitte ton pays. C'est ce que le Seigneur dit à Abraham dans notre texte. Va, quitte ton pays. Prends ce risque. Fais-moi confiance. Compte sur moi. Toi, tu quittes. Moi, j'assure. Ok, Seigneur. Ok. Je pars. Et toi, t'assures. Lorsque nous sommes partis faire nos études de théologie avec Joël, on nous avait bien précisé qu'on n'aurait pas de sécurité sociale. Les gens nous disaient, mais vous êtes complètement marteau, vous. Avec une fille de 2 ans, vous allez faire des études pendant 3 ans sans sécurité sociale ? Ça va pas dans la tête. Mais Joël et moi, nous avions confiance en Dieu. Et Joël est là, elle peut témoigner que pendant 3 ans, notre fille n'a jamais été malade. Elle n'a jamais été malade. Sauf le jour où on a commencé à avoir la sécu. C'est pas vrai ? Là, elle a fait toutes les maladies possibles et imaginables. Mais à la limite, on s'en foutait, on avait la sécu. Alors, je voudrais juste terminer, il me reste 2 minutes. Juste, si tu veux, ce matin, écouter la voix de Dieu qui te dit « J'ai des promesses en réserve pour toi ». Le Seigneur te dit la même chose ce matin. Va sur ton propre chemin. Ne te contente pas du chemin que tu as déjà parcouru. Oui, il était super ce chemin. Mais maintenant, il y a une autre route que j'aimerais que tu prennes. Fais-moi confiance. Va plus loin. Quitte tes zones de confort. Découvre les promesses que Dieu a en réserve pour toi. Nous en sommes tous là, frères et sœurs. Tous, moi compris. Nous sommes tous et toutes des marcheurs dans la foi. Si j'avais le temps, je vous chanterais « Va, chacun son chemin », mais j'ai plus le temps. Chacun son chemin, mais ensemble. Ensemble, sur le chemin. Nous prions. Père, nous sommes des hommes et des femmes que tu as déjà bénis. Mais ce matin, devant ce texte, nous ressentons le besoin d'une nouvelle rencontre avec toi. Nous ressentons ce besoin de quitter le confort de notre chemin pour peut-être nous engager dans une autre voie, celle qui est la tienne. Donne-nous, Seigneur, la force. la force de prendre cette décision, le désir et la joie de la suivre, en sachant que toi, Seigneur, tu es là avec nous sur le chemin, tu chemines avec nous pour de nouvelles aventures. Oui, Seigneur, merci pour ces nouvelles aventures que tu nous proposes. Nous sommes tous partants. Amen.